Bonjour à toutes. Alors, à l'heure de la sieste, vous êtes prêtes de parler de mon sujet? Bon, là, je ne vous vois plus d'un coup, hein, donc je ne sais pas si vous souriez ou pas, mais on va démarrer. Je ne sais pas si vous me connaissez. Je vais prendre quelques minutes pour me présenter. Donc, je suis Rachel Dufour. Je suis mariée avec Eric depuis 25 ans, mardi prochain. Merci. Je dirais que vous avez applaudi. Il est tout seul en Thaïlande, il fait une conférence pour des missionnaires là-bas, donc c'est très rare qu'on ne soit pas ensemble, mais pour une fois, pour vous, je suis restée derrière en France quand il est parti là-bas. Nous avons 5 fils qui ont entre 24 ans et 18 ans. Alors, oui, j'ai commencé jeune. Et donc je sais de quoi je parle. Nous avons eu 5 fils en 6 ans et demi. Ils ont 24 ans, 23 ans, 22 ans, 19 ans, 18 ans. On est très heureux avec nos fils. Voilà. Notre aîné est marié, donc on commence à avoir des filles enfin dans la maison. Ça fait 25 ans qu'on sert Dieu aussi. On a commencé avec mon mari donc comme pasteur dans la région de l'Est. Nous avons ouvert l'église d'Alkirch, et puis nous étions à Chaumont, et puis nous étions à Troyes. Et puis le Seigneur nous a envoyés au Laos. On est parti comme missionnaire avec nos 5 petits bouts. Le dernier avait 1 an et demi. On a travaillé pour le Seigneur là-bas pendant 8 ans. Et puis... Je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça, mais les choses n'ont pas été faciles au Laos. On a vécu la maladie, on a vécu beaucoup de difficultés, et on avait beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui nous comprenait. On a, pendant 2 ans, cherché de l'aide, il n'y avait personne. Et pour faire très court, c'est de cela qu'est né notre ministère aujourd'hui. Nous nous occupons des pasteurs et des missionnaires qui ont besoin d'aide un petit peu partout dans le monde. Donc on voyage environ 6 mois par an, je prends environ 40 avions par an, donc c'est beaucoup. Et je suis très, très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. La sexualité, pourquoi j'en parle? Parce que je vois, peut-être 300, 400 femmes par an en entretien individuel. Je suis psychothérapeute, pasteur, psychothérapeute, et je fais un doctorat en ce moment sur la sexualité. Donc du coup, j'écris un livre sur la sexualité qui me servira pour ma thèse. On fait les deux en même temps. Et pourquoi je me suis spécialisée dans ce sujet-là? Parce que j'entends... jour après jour, semaine après semaine, année après année, des femmes qui souffrent au niveau de la sexualité pour multiples raisons. Des fois, c'est parce qu'elles ont été victimes d'abus et qu'il y a eu des choses terribles qui leur sont arrivées, ou elles sont tombées dans la pornographie. Elles ont découvert ce que la sexualité était avec un angle vraiment négatif. Des fois, c'est parce qu'elles ont été élevées dans un milieu très puritain où on n'en parle pas. Je ne sais pas, dans votre église, est-ce qu'on a déjà abordé le thème de la sexualité? Un peu oui, hein, ça louche pas, on en parle. Hein. Toutes celles qui ont dit oui, sans doute, peut-être que je suis passée chez vous. Mais c'est rare, n'est-ce pas? C'est encore rare et c'est triste, parce qu'en fait, la sexualité est au cœur du plan de Dieu. Je vais aborder 3-4 thèmes en fonction du temps que je vais avoir. Je vais vous parler de la sexualité dans le cœur de Dieu, en fait, pourquoi est-ce que c'est quelque chose de beau et de divin. Et puis ensuite, on parlera rapidement de comment est-ce qu'elle est construite dans notre corps, comment est-ce que Dieu avait prévu tout ça. Puis on passera après à la partie un petit peu plus pratique, comment ça fonctionne. Est-ce que vous êtes choqués si je dis orgasme? Ok? Des mots comme ça, parce que préparez-vous, ils vont venir. Hein. On va commencer soft et puis ensuite, je vais vous expliquer tout ça en clair. Ça va. Je mets comme ça juste pour vous voir. Après, je vais enlever ma main pour la vidéo. Ok, on est prêts? Vous êtes prêtes? Pourquoi je suis passionnée de parler de ce sujet? C'est parce que le diable a trop eu droit au chapitre dans ce domaine. Il a pris quelque chose que Dieu a créé qui était beau et il l'a sali, il l'a traîné plus bas que terre et il en a fait quelque chose de dégradant et d'effrayant et de douloureux et de pas beau. Et regardez ce que Ésaïe dit. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. C'est exactement ça qu'il a fait. Il a pris la sexualité que Dieu a créée et il en a fait quelque chose de trashy, on dirait en anglais, de dégoûtant. Dites-moi, qui est-ce qui a créé les sexes, hommes et femmes? Dieu. Je n'ai pas le temps, mais vous pourriez relire dans Genèse, au moment de la création, Dieu a créé l'homme et la femme, et il a dit que c'était beau. Toute sa création était belle. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on devient femme que quand on est marié? Ça commence bien plus tôt que ça. Hein. On est sexué dès le moment où la conception démarre, en fait. Dès le moment où le petit ovule est fécondé, hop, ça y est, c'est parti, il va y avoir une fille ou un garçon. La sexualité démarre là. Pourquoi est-ce que Dieu a créé la sexualité? Parce qu'en fait, il a choisi d'utiliser l'image du mari et de la femme qui vont devenir un comme une représentation. C'est la représentation la plus précise de la nature divine, en fait, de Dieu. Si vous réfléchissez à Jésus et sa position par rapport à nous dans la Bible, Dieu au démarrage et le Dieu créateur, je vous le fais très vite, je n'ai pas beaucoup de temps, ce sont des thèmes que j'aborde souvent. Si vous m'avez déjà entendu patienter, je vais arriver au juicy after. Si vous m'avez jamais entendu, ben, écoutez, allez sur le Top Chrétien, il y a plein d'endroits où vous pouvez lire ces passages-là. Mais Jésus, Dieu interagit avec nous comme un créateur au démarrage. Prenez avec Adam et Ève. Et puis, on avance dans l'histoire. Avec la Bible, il devient le maître. Il sort son peuple de l'esclavage, etc. Puis Jésus vient comme un frère, comme un ami, comme un sauveur. Dites-moi, comment est-ce qu'il revient à la fin de la Bible? Comme un époux. Il y en a qui ont suivi. Il revient comme un époux. À votre avis, pourquoi est-ce que c'est cette terminologie qui est utilisée? Il revient comme un époux. Et on parle du repas des noces de l'agneau, quand il va venir nous chercher. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe au moment des noces de l'agneau après? Ah, plus timide là, j'entends pas bien. La nuit de noces, n'est-ce pas? Nous, on a marié notre premier fils l'année dernière. À 10h du soir, ils sont partis. Et nous, on a rangé. Pourquoi ils sont partis vite, à votre avis? Parce qu'il y avait la nuit de noces qui arrivait. Ok, mais si, réfléchissez, poussez ça plus loin. Qu'est-ce qui se passe à la nuit de noces? Le mari et la femme deviennent un. C'est ce qui va se passer avec Jésus quand il va venir chercher son épouse, n'est-ce pas? On va devenir un avec lui. Il y a cette fusion, il y a cette union de Christ avec l'épouse. Il a choisi d'utiliser le moment sur la terre de la relation sexuelle entre le mari et la femme pour nous donner un avant-goût, un aperçu de ce que notre union avec Christ sera. Je vous choque ou ça va? Ça va, tout le monde me suit. Je vais vous lire 1 Pierre 1, 23. Et je vais doucement pour la traductrice. Merci hein, pour les traductrices ici, c'est super ce que vous faites. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. En fait, je ne connais pas le grec, hein, mais c'est en étudiant, en creusant, quand on regarde la version grecque, c'est-à-dire la version originelle de ce texte-là, le texte nous dit que nous ne sommes pas nés de nouveau à cause d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. Vous savez ce que le mot semence veut dire en grec? Quel est le mot semence en grec? Quel est le mot grec pour semence? Ah, ça c'est le décalage horaire. Eh bien, c'est sperma. C'est le sperme. Pourquoi? Parce que dans le sperme, il y a l'ADN du Père. Et parce qu'on a l'ADN de Dieu en nous, eh bien alors, nous avons la vie éternelle grâce à la parole vivante et permanente de Dieu qui est en nous. Dieu a choisi d'utiliser un terme hautement sexuel pour parler de la vie éternelle que nous avons en nous grâce à son ADN. C'est beau, non? Il a choisi d'utiliser des termes de sexualité pour nous parler de la vie éternelle. Le but de la sexualité, c'est de donner et non pas de recevoir. Gardez ça en tête quand on abordera les questions, peut-être. Bien sûr, un des buts, c'est la transmission de la vie. Hein. Nous, on a donné 5 fils, on a repeuplé, le nom du four ne s'éteindra pas, tout va bien. Mais il y a plus de filles que de gars, mais nous, on a bien donné à ce niveau-là, donc tout va bien. Mais le but de la sexualité est aussi le plaisir. Et c'est la Bible qui le dit. Il y a un livre extraordinaire qui parle du plaisir. Merci, Cantique des Cantiques. Bon, je pourrais vous faire une heure là-dessus, mais en fait, dans le Cantique des Cantiques, si vous mettez des lunettes de sexualité, il y a la nuit de noces décrite, avec le mari, le nouveau mari qui met la main sous la tête de sa femme, qui l'embrasse en commençant par la bouche, on verra tout ça, ça met en marche la machine chez la femme, et puis qui descend jusqu'en bas. Quand c'est poétique, hein, les colliers de chèvres, les montagnes, etc. Non, il parle de sein, il parle de vagin, il parle de lubrification, etc. Dans Cantique des Cantiques, hein, ça va vous inciter à lire la Bible. Allez-y, vous verrez. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez vous-même. Donc la femme est sexuée, n'est-ce pas? Alors où est le problème? Le problème est quand soit l'énergie sexuelle qui est en nous est complètement débridée et utilisée sans aucun cadre, première source du problème. Deux, aussi quand elle est muselée, écrasée. Vous savez, quand on fonctionne avant le mariage comme si on n'était pas sexué et qu'on écrase tout ça, on tue tout ça, ça crée beaucoup de difficultés après, s'il y a mariage dans la vie sexuelle. L'appétit sexuel doit être contrôlé dans un cadre, mais pas détruit. On va parler un petit peu du cadre. Il y a un cadre parce que Dieu a créé des lois. Dieu a créé des lois et il a choisi de créer l'alliance entre le mari et la femme pour créer une zone de protection, pour que cette relation tellement précieuse où l'un, le mari et la femme vont devenir un au niveau physique, d'accord, mais pas que, au niveau émotionnel et spirituel, ils vont devenir un et Dieu a prévu que ça se passe dans la sécurité de l'alliance. Si, je vais vous le dire comme ça, dans le cœur de chaque femme au monde, je voyage beaucoup, je parle avec des femmes de toute culture, et de partout dans le monde, et je l'ai testé. Vous savez, quand on étudie, après on veut tester, je l'ai testé. Ce que je vais vous expliquer là a été mis en évidence par des scientifiques chrétiens américains, et voilà ce qu'ils ont expliqué. Et après je l'ai testé, et ça marche à 100%. Je n'ai jamais vu cette théorie ne pas se confirmer. Dans le cœur de chaque femme, nous avons une sorte de ligne rouge qui définit en fait ce que l'on ne veut pas dépasser au niveau physique, avant le mariage. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Plein de oui. Cette notion de « je veux préserver ça pour le mariage », elle est ancrée en nous, parce qu'elle fait partie des lois que Dieu a créées. Elle est ancrée en nous, et si on la dépasse, eh bien, il va y avoir trois conséquences. Il faut que je lâche quelque chose. Je ne vais pas lâcher le micro, je vais lâcher ça. Dans le monde, Dieu a créé des lois morales, comme par exemple les 10 commandements. C'est une loi morale, n'est-ce pas? Tu ne voleras pas. Bon, ben, si je décide de voler le micro, je peux partir avec. Concrètement, je peux briser la loi morale. Il y aura peut-être des conséquences si je suis prise, mais je peux la franchir. Il y a aussi dans le monde des lois que Dieu a créées qui sont naturelles. Si je lâche le bouchon de ma bouteille d'eau, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe. Si je ne crois pas en Dieu, elle tombe. Si je ne crois pas dans la gravité, elle tombe. Vous m'avez comprise. Le fait de ne pas dépasser cette fameuse ligne jaune, la zone physique de réserver la sexualité au mariage n'est pas une loi morale, comme on nous l'enseigne trop souvent dans les églises. C'est pas bien, hein ? Vous couchez pas ensemble avant le mariage. Hein ? On nous le présente comme une loi morale. Ce qui pousse les jeunes à vouloir la franchir. Le problème, c'est que c'est une loi naturelle et que si on la franchit, il va y avoir trois conséquences. Encore une fois, excusez-moi, je vais les faire vite, mais je voudrais passer à la question plus pratique. Mais je vais vous donner le cadre avant. Les trois conséquences, c'est que la construction de l'amitié qui était prévue entre le futur mari et la future épouse, pour qu'ils deviennent les meilleurs amis du monde avant de se marier, donc au niveau intellectuel, social, récréatif, émotionnel, spirituel, s'arrête là où ils en étaient. Ce qui fait que quand ils seront mariés, il n'y aura rien entre eux, pas d'amitié. On a l'impression d'être deux étrangers, l'un à côté de l'autre. La deuxième conséquence, c'est que la confiance dans le cœur de la femme est brisée. Dites-moi, c'est facile d'être épanouie sexuellement quand on n'a pas confiance dans son conjoint? Non. C'est facile de connecter émotionnellement et sexuellement et spirituellement quand on n'a pas confiance dans son conjoint? Non. Avant le mariage, on ne peut pas garder ses mains hors du corps de l'autre. Et puis après le mariage, la troisième conséquence est que d'un seul coup, plus de désir sexuel chez la femme. La libido s'écroule. À votre avis, est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Si on attend, on a le temps de construire son amitié. On construit la confiance de la femme vers le mari et on s'assure que la sexualité va pouvoir être développée dans un cadre qui va être sain, en fait. Ça vaut le coup d'attendre. Je vous assure qu'on parle beaucoup à des groupes de jeunes, des célibataires. Quand on leur explique ça, ils comprennent que ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre. Maintenant, quand je dis ça vaut le coup d'attendre, et j'y crois à 100 000%, nos enfants, 5 fils, hein, pas de pression, hein, mais on a essayé d'en faire des hommes de Dieu, hein, je vous dis, et des chevaliers. Depuis qu'ils sont tout petits, la ligne rouge, on leur explique la ligne rouge. Et quand ils ont rencontré notre premier marié, quand il a rencontré sa belle, qui s'appelle Marie, que j'aime beaucoup, dès qu'ils ont décidé de se fréquenter, une des premières questions qu'il lui a posée, c'est quoi ta ligne rouge, hein? Elle n'avait jamais entendu. Eh oui. Ah ben, ça sert de répéter. Hein. La répétition, ça marche. Ben, vous savez quoi ? Même si elle n'a jamais entendu nous raconter tout ça, elle a dit « Ah oui, oui, je vois exactement ce que tu veux dire. » Elle lui a expliqué et ça leur a donné une sécurité, un cadre pour construire leur relation. Donc ça marche. Ne pensez pas que ce n'est pas vieille école, ça marche. Bon, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Il y a des moyens de reconstruire tout ça. Si ça a été brisé, ça serait le thème d'un autre sujet. Ensuite, donc voilà le premier cadre dans l'alliance, dans la sécurité du mariage. Le deuxième cadre que la Bible nous donne... c'est que la relation sexuelle doit se mettre en place dans un triangle, je vais l'expliquer avec un triangle, c'est plus simple, avec trois règles de base. La première règle, c'est que c'est réservé, comme je l'ai dit, entre un mari et une femme, donc entre un homme et une femme mariés ensemble. Vous êtes d'accord ? Ok, je viens de passer 10 minutes à vous l'expliquer, donc première règle, jusque-là ça va. Deuxième règle, il faut un consentement mutuel. Les deux doivent dire oui pour essayer telle ou telle chose dans le cadre de la relation sexuelle, telle ou telle position, tel ou tel acte. Okay, si les deux sont d'accord, feu vert. S'il y en a un qui n'est pas trop d'accord, l'autre oui, et on attend. Vous pouvez prier pour ça, vous pouvez en parler, on n'avance pas. Consentement mutuel. Troisième règle, on ne blesse pas physiquement ou moralement son conjoint. Parce que ça, ce n'est pas donner, exprimer l'amour, ce n'est pas se connecter, devenir un. Comme Dieu le veut. Ça n'a rien à voir dans le plan de Dieu. Toutes ces 50 couleurs de je ne sais pas quoi, je sais très bien de quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne vous dis pas ce que j'en pense. Non, ne dites pas. Vous voyez ce que je veux dire. C'est n'importe quoi. Hein. C'est le diable qui se moque de la relation sexuelle. L'acte sexuel, c'est de donner à l'autre. Et comme l'autre se donne à moi, tout le monde est gagnant. D'accord ? Donc, entre mari et femme, consentement mutuel, pas de douleur infligée. Quand on reste dans ce cadre-là, le ciel est la limite. L'Église, en général, a fait l'erreur de dire aux chrétiens, comme si c'était des adolescents, ce qu'ils pouvaient faire ou ne pas faire dans leur chambre à coucher. La musique entre mari et femme, c'est vous qui l'écrivez. La musique dans la chambre conjugale, c'est le couple qui l'écrit avec Dieu. La corde à trois fils, vous êtes trois, il y a Christ avec. Donc, moi... Je ne peux pas vous dire ce que vous faites et vous ne pouvez pas me dire ce que je fais. Vous voyez, c'est extrêmement sacré, c'est entre Dieu et nous. Voilà le cadre. Il y a une notion d'exclusivité qui est très très importante aussi, évidemment. L'un à l'autre vont devenir un. C'est mystérieux hein, ce que Dieu a préparé. Où il est ce verset qui explique que c'est mystérieux. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, vous savez où c'est, hein, Éphésiens 5, 31 à 33. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. Et je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Ah, celui-ci, on nous l'explique bien, hein, que la femme respecte son mari. Celui-là, on nous l'explique bien. Mais je suis pour, hein, mais je vous l'expliquerai autrement que ce que vous aviez entendu déjà, si je devais le faire. Ce que je veux juste souligner ici, c'est que ce mystère est grand, et je dis cela... par rapport à Christ et à l'Église. Donc, on ne fait pas n'importe quoi dans le lit conjugal. Vous voyez le cadre, la sécurité de la relation sexuelle entre le mari et la femme, n'est-ce pas ? Maintenant, je voudrais vous parler de comment est-ce que Dieu a créé en nous la sexualité. Vous savez qu'il y a des échographies qui prouvent, qui ont déjà visionné, enregistré un petit garçon se touchant le zizi ou une petite fille se touchant le sexe. Ça vous choque ? Psaume 139 nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Vous connaissez la suite. « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Un bébé, quand il naît, est-ce qu'il y a un risque à la naissance qu'il soit contaminé par la pornographie ou tout ce plan dégoûtant que le diable a mis en place pour la sexualité ? Non, ok. À votre avis, à quel âge démarre la première érection chez les garçons ? Ouais, bébé, oui, oui. Ah oui, oui, non, c'est pas l'adolescence. Hein. La première érection chez un garçon, c'est dans les 10 premières minutes de vie. Ok, je vais vous dire un autre secret. Et au fait, ce que je vous raconte sur mes enfants, ils sont d'accord que je le fasse. Hein. Mon fils, le premier, la première chose qu'il a faite, je lui dis tous les jours, tous les années à son anniversaire. Il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait ? Pipi sur moi. C'est la première chose. Pourquoi ? Parce qu'après qu'un petit garçon ait une érection, il fait pipi. Voilà. Donc mon fils était dans les premières minutes de vie. Ma belle-fille en est ravie. Et les filles, première lubrification dans les premières 24 heures. La lubrification du vagin de la femme se met en place dans les premières 24 heures de vie. Est-ce que c'est pas beau ça? Faisons très attention à ne pas attribuer au diable des choses que Dieu a créées. La sexualité, elle est belle et Dieu l'a créée et ça démarre à la naissance. Ok? De 0 à 2 ans, chez un nouveau-né, c'est extrêmement important de comprendre que l'attachement, le fait, vous savez, ces bébés-là, moi j'ai eu mon plein de bébés, quand ils sont tout petits, vous regardez, ils font les mêmes mimiques que vous, c'est super mignon. En fait, il se passe quelque chose au niveau de la sexualité là. Ils apprennent à s'attacher à vous, ils apprendront donc après à développer la capacité d'une intimité avec leur futur conjoint et d'une vulnérabilité. Quand l'attachement ne s'est pas fait entre 0 à 2 ans, on se retrouve avec des adultes qui ne sont pas capables de connecter avec l'autre. Si vous avez, vous, des problèmes à connecter, à vous sentir vulnérable, peut-être qu'il y a eu un problème dans votre enfance à ce niveau-là. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut vous guérir de cela. Il peut rattraper le temps, vous faire revivre en quelques instants les moments que vous avez manqués dans cet âge-là. Et vous allez voir, ça s'applique à toutes les étapes. On peut facilement remonter dans l'enfance et trouver l'endroit où il y a eu quelque chose qui n'a pas marché dans la construction de notre sexualité. Ça s'est fait des fois dans ce cadre-là. Comme Mona en a parlé ce matin, dans travailler avec Jésus sur la sécurité, c'est extrêmement important. Elle a dit ce matin, je contrôlais tout parce que je n'étais jamais en sécurité. Ça vient sans doute à ce démarrage-là, je ne sais pas pour Mona, mais en général, un problème de sécurité démarre là. On peut racheter, réapprendre à notre sécurité en Christ. Ensuite, on passe à la petite enfance. Entre 2 à 4 ans, il est extrêmement important de transmettre à l'enfant l'apprentissage du contrôle, on apprend à faire pipi dans les toilettes, etc., et aussi le toucher et le langage. Ma mère était burkinabé, je suis blanche mais je suis à moitié africaine, en fait je suis très africaine à l'intérieur, c'est vrai. J'ai élevé mes enfants sur le dos comme ça. Et une des choses qu'on fait au Burkina, c'est que les bébés on les masse à l'huile tout le temps, quoi. Tous les jours, ben moi j'ai massé mes bébés tout le temps sans savoir. Et en fait, vous savez ce que c'est drôlement bien de faire ça, parce que quand on masse, ben moi j'évitais pas la zone du zizi, que des gars. J'évitais pas du tout la zone du zizi, moi. Je leur ai fait plein de bisous, je leur ai croqué les fesses, ils étaient trop mignons mes garçons. Et qu'est-ce que ça leur... Attention, il y a rien de déplacé dans ce que je vous explique là. Tout ce qui serait déplacé, c'est une abomination, d'accord? On ne touche pas les enfants de façon abus sexuel, etc. C'est une abomination devant Dieu. Je vous parle de l'éveil au corps, de la découverte au corps et du fait de normaliser cela. Donc le toucher en mettant des mots, lave-toi bien les fesses, lave-toi bien le zizi, il faut bien écarter les petites lèvres, tout ça pour nettoyer, ça fait partie du langage qu'il faut commencer à transmettre. Ça va nous permettre ensuite d'avoir une connexion à notre être tout entier, inclut les organes génitaux, qui sera normal. Si vous, adultes, aujourd'hui, vous avez du mal à dire vagin, pénis, etc., ben peut-être qu'il y a eu un problème ici et que ça vaut le coup d'explorer ça avec Dieu. Alors, si vous avez des enfants, il ne faudra pas dire qu'est-ce qu'on dit en France pour ces petits trucs-là, foufou, je ne sais pas quoi. Enfin, moi, je vous conseille, si vous n'arrivez pas à le dire, à vous mettre devant la glace et à pratiquer. Ah oui, à dire, il faut bien laver entre les lèvres de ton sexe pour que ça soit propre. Si vous n'arrivez pas à le dire à votre enfant, pratiquez devant la glace, ça va vous guérir vous à l'intérieur. Faire une connexion entre votre tête et votre corps tout entier, inclus les organes génitaux. Ensuite, excusez-moi, je vais un tout petit peu vite, je voudrais bien toucher tous les points et vous donner la parole surtout après. Ensuite arrive à 4-5 ans l'étape de la curiosité. Vous savez, quand ils posent des questions, « Eh maman, pourquoi si ? Eh maman, pourquoi ça ?» Bon, moi, ça a été non-stop pendant 6 ou 7 ans. « Eh maman, pourquoi si ? Pourquoi ça ?» On a plutôt envie d'arrêter des moments et de dire « Bon, écoute, arrête, arrête. » Mais en fait, c'est extrêmement important au niveau de la construction de leur sexualité aux enfants. Parce qu'il faut valider à chaque fois qu'ils posent une question. Valider, valider, valider. Et on commence à parler des abus, des dangers, des abus, etc. Personne ne peut te toucher. Si quelqu'un essaie de te toucher, tu le dis à papa et maman tout de suite, etc. Ça, c'est extrêmement important de transmettre ça. Quand il y a eu des abus, malheureusement, Malheureusement, les enfants, ensuite adultes, ont perdu la notion de corps et de ce qui définit leur, ce qui est à eux, en fait. Voilà quelque chose qu'il faut réapprendre. C'est pour ça qu'on a un problème de sécurité. Parce qu'on ne sait plus où est la limite. Notre corps est censé être une protection. La peau protège. Et quand il y a eu abus, eh bien, cette barrière a sauté. Voilà un endroit où Dieu peut guérir aussi encore aujourd'hui, heureusement. Parce que ça joue dans comment la sexualité de femme se vit. Et puis on arrive ensuite à 5-10 ans à l'école primaire. Alors là, c'est l'exploration. Moi, je me souviens, quand nos enfants avaient cet âge-là, les filles, c'était n'importe quoi. Ça pleure tout le temps et ça ne s'est pas monté aux arbres, ce qui est absolument faux. Mes belles filles sont horrifiées quand ils disent ça, mais c'est vrai. Nos fils pensaient ça. En fait, ils commencent à jouer et ces jeux sont importants pour la découverte, pour l'éveil à la sexualité. On commence à voir, entre 5-10 ans, qu'il y a une différence entre garçons et filles. Alors, ne faites pas comme mes beaux-parents qui avaient dit à mon mari, il y avait une sœur. Et un jour, ils prenaient un bain ensemble avec sa sœur. Et puis, Eric a dit, je ne sais pas, il avait peut-être 5 ans, il a dit, bah, pourquoi elle n'a pas dit ma sœur? Et ils lui ont dit, parce qu'elle n'a pas été sage, on lui a coupé. Non, non, pas une bonne idée. C'est pas... Bon, ils l'ont dit en plaisantant, rassurez-vous, mon mari est guéri, tout va bien. Mais ah oui, mais vous voyez comme, en tant qu'adulte, on peut faire des grosses bêtises, hein. N'est-ce pas ? Il n'y avait aucune malintention chez mes beaux-parents, bien sûr, mais on va parler des choses qui sont sexuelles de façon positive en expliquant les limites. Vous vous souvenez, ce cadre, on peut commencer à l'expliquer très jeune, en fait, très jeune. Si vous ne l'avez pas acquis, eh ben, pareil, digérez-le, parlez-en, entre femmes, si vous êtes célibataire, avec votre conjoint, si vous êtes marié. Il faut construire cette notion que la sexualité, elle est saine, sainte, réservée, dans le cas du couple, à cause de l'alliance, à cause de cette fameuse loi naturelle que je vous ai expliquée, d'accord ? Attention à la confusion entre la honte et le sentiment de culpabilité associé à des choses que l'on aurait subies. La honte n'a rien à voir avec la conviction de péché. Je vais vous le répéter, ça. La honte n'a rien à voir avec la conviction de péché. Un enfant, une petite fille qui aurait subi des choses, qui aurait vu des choses, va avoir une honte qui va la ronger à l'intérieur et le diable va dire « t'as péché, t'es fichu ». Jésus ne pourra jamais te sauver, ne pourra jamais te regarder. Et on enfonce cet enfant alors que la honte est associée à ce qui s'est passé, qui n'était pas normal, qui était une abomination aux yeux de Dieu. Rien à voir avec la conviction de péché, d'accord ? Ça n'a rien à voir, il faut combattre ça de près. Si vous avez besoin d'aide, l'équipe de relations d'aide est là pour ça. Ils peuvent vous aider à gérer ça. Ensuite, on passe à la préadolescence. 10, 13 ans. En anglais, on dit kiss and run. Ça veut dire je te touche et puis je me sauve en courant, on ricane. Ah, d'un seul coup, les filles sont un peu plus intéressantes cette fois-ci. C'est une étape extrêmement importante parce qu'on va enseigner les enfants à apprendre à accepter les sensations qui sont liées à la sexualité. On découvre que notre corps fonctionne. Quand nos fils sont entrés dans l'adolescence, il y a eu une explosion de testostérone dans la maison. Déjà, j'ai commencé à faire 1,5 kg de pâtes à chaque fois que je faisais un repas. Un repas pâtes, c'était 1,5 kg pour de vrai. Et je faisais 100 crêpes tous les mercredis soirs. Ceux qui m'ont connue à cette époque-là s'en souviennent. 100 crêpes tous les mercredis soirs. Bon, avec je ne sais pas combien de pots de Nutella, enfin bon. Va arriver peut-être la question de la masturbation. Je vais l'anticiper parce qu'elle va venir dans les questions. Vous avez déjà vu un bébé, une petite fille, assise dans son siège auto qui va se frotter, là, contre le siège auto. Vous avez déjà vu ça ? Qu'est-ce que les mamans ont tendance à faire ? Arrête, c'est dégoûtant. Elle n'est pas en train de se masturber. Son corps fonctionne, et par hasard, peut-être, elle s'est frottée là, puis ça a déclenché quelque chose de plutôt agréable en elle, et elle recommence. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne tapez pas sur la main d'un petit garçon qui va toucher son zizi. Ne tapez pas sur la main d'une petite fille qui va se frotter contre son matelas, tout bébé. Laissez-la faire en lui expliquant, écoute, ce qui t'arrive là, ben oui, c'est bien, c'est quelque chose que Dieu a créé, ça s'appelle la sexualité. Et c'est réservé au cadre du mariage. Écoute, viens, on va faire autre chose. On va danser, on va écouter de la musique, on va chanter, je vais parler de la masturbation un peu plus tard. Canaliser son énergie, elle ou il a besoin d'être réconfortée. Entendez-moi bien, je parle de la masturbation là. On va pas condamner la masturbation, mais canaliser l'énergie et l'aider à trouver quelque chose qui va pouvoir faire sortir cette énergie et apporter les endorphines et toutes les choses dont on a besoin dans le corps pour être apaisé. D'accord ? Et ça commence souvent à cet âge-là. Il y a des enfants qui sont des garçons, des filles, qui sont traumatisés à vie quand on les a condamnés parce qu'il y avait masturbation à cet âge-là. La masturbation est dangereuse uniquement si elle est accrochée à quelque chose qui vient de l'extérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Sinon, ça s'appelle de l'éveil et de la découverte du corps. Et on canalise ça. La masturbation est dangereuse parce que dans le corps, dans le cœur de la femme, il va falloir qu'on accroche des pensées. L'axe, c'est là que le danger vient. Le danger, ce n'est pas l'acte de masturbation, c'est ce qui vient avec. Ça va déclencher des fantasmes, etc. Permettez-moi de parler un tout petit peu des fantasmes. Le fantasme est un mécanisme que Dieu a créé dans notre corps pour essayer de guérir des blessures qui sont insupportables, insurmontables. C'est un mécanisme de guérison que Dieu a mis dans notre corps pour réparer quelque chose qui a été cassé. Maintenant, évidemment, qu'est-ce que le diable fait ? Toujours. Hein. Il prend quelque chose d'incroyable que Dieu a créé et il essaye d'en faire le pire piège pour l'homme. Donc, pour visualiser bien ça, il y a trois niveaux de fantasmes. On va donner trois couleurs, ça sera facile pour que vous en souveniez. Vert, c'est quand, par exemple, on a dans un couple, un mari qui travaille sur une plateforme pétrolière et qui est parti pendant 3 ou 4 mois, l'un et l'autre peuvent utiliser le fantasme en imaginant le moment où ils vont se retrouver, ou plus s'ils veulent décider entre eux. Vous voyez, le fantasme peut permettre d'entretenir la relation amoureuse, maritale, dans le cadre du mariage, etc. On peut penser, quand on est célibataire, tiens, quand je suis mariée, comment sera ma vie, j'organiserai, tu vois, j'aimerais bien faire ça pour mon mari, etc. Ça va, tant qu'on est dans cette zone-là. Le fantasme devient orange quand on commence à inviter un homme dedans, ou une femme d'ailleurs, à l'intérieur, et qu'on se met à rêver, à fantasmer sur George Clooney, par exemple. C'est quoi le slogan du café, là ? Voilà, bon, vous savez mieux que moi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, si une femme a du mal, par exemple, avec son mari, et qu'elle a besoin de penser à George Clooney pour passer au lit avec son mari, oula, pas bon. Vous voyez, pas bon. Et le rouge, c'est si... Alors là, par contre, elle pense au voisin d'à côté, parce que lui... Il est tellement plus et tellement mieux. Vous voyez ? Mais ce n'est pas que mauvais. On a aussi des situations où il y a eu des gros traumatismes et il y a un fantasme récurrent. En travaillant avec cela, on peut arriver à amener une guérison sur le traumatisme. Donc pareil, si c'est quelque chose que vous combattez, ne restez pas seul à vous laisser accuser par le diable. Il y a moyen de vous aider. D'accord ? On a moyen de vous aider pour qu'il y ait guérison à ce niveau-là et que d'un seul coup, les choses se remettent en place et notre esprit puisse être utilisé pour la bonne chose. Avant 13 ans, je prie qu'en France, le plus on parle, le plus on a à parler sur ce sujet-là, le plus ça sera répandu. Avant 13 ans, je souhaite que les enfants sachent que la sexualité, c'est un cadeau de Dieu. Elle est bonne, c'était une idée extraordinaire que Dieu a créée. 1. C'est un cadeau de Dieu. 2. La curiosité sexuelle est parfaitement naturelle. Arrêtons de taper sur la main de nos enfants. On canalise. On n'éteint pas. Moi, je travaille avec des femmes qui ont été élevées dans des milieux très puritains, donc dans nos églises, quoi, parlons clairement, à qui on a dit, j'aimerais bien attraper la personne qui a lancé cette idée. On ne s'embrasse pas sur la bouche avant le mariage. S'embrasse sur la bouche, c'est dégoûtant. Quand une jeune femme a été élevée comme ça et qu'elle a entendu ça répéter, on va avoir un problème de non-capacité à atteindre l'orgasme après. Parce que le baiser sur la bouche, que vous le réserviez, si c'est votre ligne rouge qui soit réservée après le mariage, c'est différent, d'accord ? Si dans votre cœur, vous voulez protéger cela et que vous le réservez pour après le mariage, très bien, c'est parfait. Mais si on choisit de ne pas le faire parce que c'est sale, eh bien, on aura un problème après pour que tout l'acte sexuel soit vécu dans le corps de la femme parce que le baiser sur la bouche avec les langues... Alors, les Américains disent, est-ce que le French kiss... Vous savez ce que c'est le French kiss ? Moi, je me demandais comment est-ce qu'ils embrassent autrement que ça, quoi. Quand je suis arrivée aux États-Unis, ils me disent, c'est vrai qu'on embrasse avec le French kiss en France. Je dis, mais vous faites quoi, vous ? C'est quoi l'autre option ? Donc... C'est dans les films. Non, la question me la pose très souvent. Est-ce que c'est vrai qu'en France, c'est le French kiss ? Bon, revenons à nos moutons. Il se passe tout un tas de phénomènes quand on s'embrasse sur la bouche. Pour la femme, ça prépare le corps de la femme à s'habituer à un corps étranger qui est toutes les bébêtes qu'il y a dans la salive du futur mari. Encore une fois, hein, si pour vous, la ligne rouge, c'est on ne s'embrasse pas avant le mariage, ça me va très bien. Mais le corps de la femme va avoir besoin de s'habituer à un corps étranger. Parce qu'il y a des phénomènes dans le corps de la femme qui fait que quand un corps étranger est introduit en elle, des anticorps vont se mettre en route et elle va combattre. Elle va combattre le corps étranger. Donc vous imaginez la première saison de mariage, les premières semaines, les premiers mois. C'est pour ça qu'une femme qui découvre son mari pour la première fois à ce niveau-là va avoir plein d'infections urinaires. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais il y a beaucoup de jeunes mariés qui ont plein d'infections urinaires au démarrage. Ben oui, parce que d'un seul coup, le sperme du mari est à l'intérieur de leur corps et le corps dit « Et là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Vite, 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 on attaque !» Donc, les défenses immunitaires diminuent, vous voyez, et pouf, on est sensible à des infections urinaires. Le plus on pratique, le plus les deux corps s'habituent, et après, c'est fini, les infections urinaires disparaissent. Donc, les baisers par la bouche aident le corps à s'habituer, le corps de la femme à s'habituer au mari. Et aussi, c'est comme un starter, je ne sais plus si ça existe en France encore, mais avant, ça vous dit combien je suis vieille, quand on démarrait une voiture diesel, on devait attendre, hein. Vous savez, le truc comme ça, là, pour que ça chauffe, bah, c'est pareil. La bouche, c'est comme le diesel, ça permet de chauffer la machine, et puis ça va ouvrir les portes en bas, puisque ça va déclencher la lubrification, en fait. Donc, bref. Tout ça pour vous dire que c'est hyper important, que la curiosité est belle, c'est là que j'en suis. Oui, les sensations, on ne les éteint pas, on les canalise. Cadeau de Dieu. Aussi, ce qu'il faut enseigner à la préadolescence, c'est que chacun est responsable de sa propre sexualité. Il faut bien, bien, bien rentrer dans la tête de nos enfants qu'il y a des conséquences, hein. Que si on se laisse posséder par nos sentiments qui deviennent des pulsions, eh ben, il y aura des conséquences. Donc voilà des choses qu'on explique, et on explique le contexte, tout ce que j'ai vous expliqué en début. Quand on arrive à l'adolescence, ben voilà, vous pouvez plus rien faire. C'est maintenant, vous pouvez prier encore et encore, mais c'est là qu'ils prennent leurs décisions en fait. Il faut qu'ils acceptent leur sexualité et la responsabilité qui vient avec. Maintenant, on va arriver aux célibataires. De nos jours, donc voilà, je vous ai fait toute la chronologie, à l'adolescence, ça y est, la sexualité est pleinement développée. Il va falloir gérer ça quand on est célibataire, n'est-ce pas ? Il y a des célibataires dans la pièce ? Ça va vous gérer ? Un problème aujourd'hui ? Bon, avant, les années de mariage étaient beaucoup plus jeunes. Moi, quand on était au Laos, les jeunes filles se mariaient à 14-15 ans, donc il n'y avait pas de problème. Elles étaient la puberté passée, elles se mariaient, pas de tension à ce niveau-là. Mais de nos jours, on se marie beaucoup plus tard ou on ne se marie pas d'ailleurs. Hein. Le mariage, ce n'est pas un but en soi. Hein. Le célibat, le carrefour sur le célibat vous l'expliquera très bien. Hein. Ce n'est pas un but en soi dans la vie. Hein. C'est formidable le mariage, mais si on ne se marie pas, ce n'est pas la fin du monde. Hein. Vous n'êtes pas une moitié de femme quand vous n'êtes pas mariée. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand on se marie, il faut apprendre à vivre avec l'autre. Hein. C'est pour ça qu'on est très occupés avec notre relation d'aide pour les couples. Et moi, ça fait 25 ans hein, que c'est super. Mais quand même, c'est du travail. La difficulté, c'est qu'on a des corps en pleine capacité sexuelle et il faut canaliser. Pas éteindre, hein, pas éteindre, mesdames, canaliser. Canaliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut prendre une décision dans sa tête de pourquoi je me garde pure, de pourquoi pourquoi Dieu a créé la sexualité, et le garder dans cet objectif-là. Maintenant, on peut vivre en tant que célibataire une relation avec Christ qui soit pleinement satisfaisante. Il y a des moyens de compenser au niveau physique. Il y a le côté sexuel, qui est, malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen que dans le mariage, mais il y a le côté physique que l'on peut compenser aussi. En fait, encore une fois, comme avec les petites filles, apprendre à canaliser, c'est extrêmement important. Je vais vous donner un secret. Un très bon moyen, quand on a une pulsion sexuelle, quand on n'est pas marié, donc quand vous êtes marié, vous sautez sur votre mari, tout va bien, il sera ravi. Voilà. Il sera content. Généralement, après, ils me font des chèques à la sortie des maris. C'est bien facile. Non, c'est pas vrai, je rigole. Quand on n'est pas marié, c'est sans doute dû... Alors, vous savez comment votre cycle fonctionne, mesdames ? Oui, 28 jours, en gros. Hein ? J'ai pas le temps de vous l'expliquer tout ça, mais bon, en gros, 28 jours, en gros, 14e jour, qu'est-ce qui se passe? Ovulation. Ça veut dire que on pond. Et quand on pond, qu'est-ce qui se passe? Le petit ovule, il sort, et votre corps, il est là. On est prêt. Si jamais il y avait un spermatozoïde qui passait par là, clouc, on en ferait un petit bébé. Donc, tout le corps se met en émoi. Quand nos fils avaient des poussées de testostérone, ah voilà, j'avais pas fini ma pensée tout à l'heure, et ben moi, je les envoyais courir autour de la maison. Hein. Je disais, les gars, vous allez faire 10 tours autour de la maison, vous venez quand ça ira mieux. Hein. Parce que le corps manifeste les hormones. Là, tout à l'heure, quelqu'un disait, c'est les hormones qui travaillent. Et ben oui, mesdames, faites de l'aérobic, faites de la danse, faites un truc comme ça, mettez de la musique à fond dans votre chambre et louez Dieu avec de la musique en vous bougeant bien. Ça va vous fatiguer déjà, mais surtout, ça va relâcher de l'endorphine et ça va calmer ces réactions dans votre corps qui sont liées très souvent à l'ovulation. Un jour, je discutais avec une missionnaire de quelque part dans le monde, pas une française, et toute timide, d'une culture asiatique, donc toute timide, elle me disait, il se passe des trucs dans mon ventre, j'ai peur, tu vois, des fois, ça me travaille là, et j'ai envie qu'un homme me prenne dans ses bras, et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je pêche? Eh oui, c'est pas la seule qui pense ça. Hein. Et je vous le présente joliment, hein, parce qu'elle était toute mignonne et toute douce. Elle me disait, j'ai envie qu'un homme me prenne dans ses bras, tiens. Mais elle me le disait gentiment, je vous le redis gentiment. Je lui dis, non, tu pêches pas. Vert, orange ou rouge? Est-ce qu'elle était dans le rouge, là? Ah non, parce qu'elle s'interdisait. Elle disait, je veux pas pêcher contre Dieu. Est-ce qu'elle était dans le orange? Non, il n'y avait personne dans sa tête. Elle avait envie d'être prise, point, 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 dans ses bras. Ok, je dis, écoute, ton corps fonctionne bien, remercie Dieu. Quand ça prie, remercie Dieu d'être une femme et que ton corps fonctionne et inscris-toi à un groupe de danse. Et va danser. Il faut créer des groupes de danse dans vos églises, mesdames. Ça va vous aider. Chez les hommes, juste pour vous dire, si vous élevez des garçons, c'est les pecs, le travail sur les pectoraux qui aide. Donc, quand on travaille avec une famille où il y a des garçons, si le mari il y a des problèmes de tentation, etc., eh ben, ils font des pompes. Si vous faites des pompes, les gars, ça développe l'endorphine dans les pectoraux. Et impeccable, ça marche très bien. Bon, je vais sauter ça, tant pis. Hop, on passe à la suite. Il faut comprendre comment le désir fonctionne. Ah oui, donc je vous dis juste quand on est marié, bon, on y arrive à la fin. Quand on est marié, ben, on a la capacité de profiter, de donner et de recevoir du plaisir sexuel. Point. On va y venir. Il faut comprendre comment le désir fonctionne. Le désir a 4 niveaux. Émotionnel. On dit que les femmes donnent du sexe pour avoir de l'amour. Ça vous parle, ça? Oui. Toutes les jeunes filles, là, qui couchent parce qu'elles ont peur de perdre leur petite amie. Elles donnent du sexe pour avoir de l'amour. Les gars font semblant de donner de l'amour pour avoir du sexe. Bon, ça marche dans les deux sens. Hein. Mais malheureusement, le désir chez la femme démarre au niveau émotionnel. D'accord ? On a besoin d'être entendu, on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être affirmé pour ce que l'on fait et on a besoin d'être encouragé et félicité pour qui l'on est. Eh bien, mesdames, il n'y a pas que dans un potentiel mari ou dans votre mari que vous pouvez trouver ça. En qui est-ce que vous pouvez trouver ça ? Oui, en Jésus, en un groupe d'amis, un groupe de copines, en demandant au Seigneur de vous aider à le voir et à le recevoir dans plein d'endroits différents. Si vous nous voyez vivre avec nos enfants, vous nous entendriez leur dire en permanence qu'ils sont beaux, parce que bon, ils sont beaux, et qu'on les aime, et qu'ils sont géniaux, et que ce qu'ils font, c'est formidable, etc. On voulait qu'ils soient bien stables sexuellement, là. On a délivré un package bien ficelé, hein, notre belle-fille. Elle me dit merci souvent, d'ailleurs. Merci, t'as bien travaillé. Et oui, parce que quand on a des manquements à ce niveau-là, on a tendance à essayer de le trouver dans un homme ou dans la pornographie, et ça peut faire des grosses déviances. Donc, le besoin que vous avez au niveau émotionnel d'être affirmé, trouver, développer un autre endroit pour le faire, pour le recevoir. Il n'y a pas que dans la relation sexuelle. Ça vient après, ça ne vient pas avant. Au niveau physique, se sentir en sécurité. Mona en parlait ce matin, se sentir en sécurité, c'est tellement important. Encore une fois, c'est en crise qu'on développe ça. Et puis, en travaillant sur qu'est-ce qu'il faut que je mette autour de moi comme frontière pour être en sécurité, vous voyez. Et puis, on a un besoin d'être touché aussi. Quand la première fois qu'on a, donc il y a 8 ans, on a démarré ce ministère à plein temps, et on a laissé notre aîné et notre deuxième, qui avaient 15 ans et 16 ans derrière nous, parce qu'ils démarraient l'université, en fait. On a fait l'école à la maison, donc ils sont venus avec nous tout le temps de l'école à la maison. Et puis ensuite, quand ils ont commencé la fac, voilà quoi, il fallait qu'ils restent derrière. Donc, ils ont commencé tôt la fac, 15 ans et 16 ans, on les a laissés, pendant 6 mois. C'était long. C'était très très long. Bien sûr, on se parlait tout le temps. Ils étaient très entourés, on avait des gens qui venaient. Mais vous savez, mon plus grand souci, ce n'était pas ce qu'ils allaient manger, hein, parce que ça, c'était facile. J'ai organisé des dames qui venaient apporter des repas à la maison. Bon, le ménage, au début, ils me skypaient en se promenant dans la maison. Puis au fur et à mesure des semaines, on ne bougeait plus, on n'était que dans un petit coin. Je leur disais, vous pouvez montrer la maison? Non, maman, on reste là. Mon ordi est branché, oui, d'accord. Et une journée entière avant qu'on rentre, nettoyer. Ce qui m'inquiétait le plus, ce n'était pas ça. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était plus personne pour leur faire des câlins. Alors, 15-16 ans, des beaux Français comme ça aux États-Unis. Je ne sais pas si on a des Américaines dans la salle, mais les Américaines, elles sont intenables, hein, avec des Français autour, là. Elles leur tournaient, c'était chaud, comme vous dites, mesdames. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé des mamies dans l'église. Je leur ai dit, s'il te plaît, tu peux faire des câlins à mon fils, là. Tu le prends, à chaque fois que tu le vois, tu lui fais un gros câlin. Parce que c'était la chose que nos garçons avaient le plus, dont les garçons avaient le plus peur. Ils nous ont dit, maman, comment on va faire sans personne qui nous fait des câlins? Mesdames les célibataires, ça vous parle, ça? On a besoin d'être touchés. Moi, je fais toujours très attention. Je ne suis pas très tactile, moi, je n'ai pas forcément besoin d'être touchée. Bon, par mon mari, c'est différent, hein, mais dans la vie en général. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me taper sur l'épaule. Si vous le faites, je vais l'apprécier. Mais je n'en ai pas besoin. Mais je fais toujours très attention quand on a dans notre équipe des célibataires de leur faire des gros câlins, de leur toucher le bras, etc. Parce que le toucher, le physique, est extrêmement important pour l'équilibre sexuel d'une femme sexuée, célibataire. D'accord? Donc, souvenez-vous-en, n'hésitez pas, de façon appropriée, évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je n'ai pas dit de façon inappropriée, j'ai dit de façon très appropriée, style la grand-mère avec mon fils. D'accord? C'était safe. Le désir prend sa source aussi au niveau sexuel, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être désiré passionnément. Quand je travaille avec des célibataires, je les encourage à aller faire un rendez-vous amoureux avec Jésus toutes les semaines. Ah, ça vous surprend? Ah, vous m'avez jamais entendu dire ça? Un rendez-vous amoureux avec Jésus toutes les semaines, c'est-à-dire, mesdames, si vous aimez aller marcher pendant une heure en pensant à lui, en lui demandant qu'il vous parle, qu'il vous prenne dans ses bras. Si vous aimez faire des pédicures ou des massages, allez-y. Ben, pour l'instant, c'est votre époux qui ne râlera pas. Parce qu'après, il râlera peut-être un peu plus s'il veut aller faire une pédicure avec vous. Allez-y, faites-vous du bien en passant du temps avec Dieu une fois par semaine. Vous avez besoin de cette pause, de vous sentir attendu. Faites l'essai, hein. Ça vous semble peut-être bizarre, vous dites où elle va, mais je vous assure que ça marche. Programmez dans votre calendrier, une fois par semaine, ce rendez-vous amoureux avec Jésus et retrouvez-le. Ça va vous faire du bien à votre âme et ça va vous faire du bien à votre cœur parce que vous allez le sentir qu'il vous attend en fait. Vous allez voir, vous allez être surprise. Faites l'essai. Et bien sûr, le désir est aussi au niveau spirituel. On a besoin d'appartenir à Dieu. On a besoin d'appartenir à un groupe. On a besoin de l'effet tribu, en fait, l'effet famille. On a besoin de sentir faire partie de quelque chose. Donc vous voyez, le désir sexuel, il n'est absolument pas que sexuel. Il est émotionnel, il est physique, il est sexuel, d'accord, et il est spirituel. Donc on peut travailler, qu'on soit marié ou pas marié, à explorer, à développer notre propre désir pour pouvoir y répondre de façon saine, dans le cadre du couple si on est marié, ou sinon dans le cadre de « je protège ce que Dieu m'a confié et je développe ma vie de femme malgré tout ». Ça va? Allez, on passe maintenant à la partie pratique. Bon, faire l'amour, à quoi ça ressemble? Évidemment, si je l'aborde, c'est parce que je vous garantis que dans les entretiens un à un, c'est une question qui m'est très souvent posée. Un jour, et si vous m'avez déjà entendu parler sur ce sujet, vous connaissez mon histoire à ce niveau-là, mais un jour, on était sur un champ missionnaire. Vous savez, quand on a des missionnaires qui nous demandent un rendez-vous avec le visage extrêmement tendu et paniqué, un rendez-vous en urgence, généralement, c'est que les enfants ont été enlevés, il y a eu un crime autour d'eux, quelqu'un est mort dans leur famille. C'est des trucs comme ça, hein, qu'on gère, hein. Des trucs graves. Donc moi, je me préparais avec ce jeune couple-là, qui demande un rendez-vous, ils étaient vraiment décomposés. Donc je me prépare pour un truc terrible. Et en fait, ils étaient jeunes mariés, ça faisait 2 mois qu'ils étaient mariés, et elle me regarde, elle me dit, Rachel, j'arrive pas à avoir un orgasme. Et elle était paniquée. Je lui dis, ah, ok, raconte-moi un peu, alors j'ai tout un truc de questions. Nanana. Puis dans ma tête, je me disais, il n'y a rien qui colle, elle n'a aucune raison physique que son corps ne marche pas. Son corps fonctionnait, il y avait un truc qui ne marchait pas. Dans... Je n'arrivais pas à comprendre d'où venait le problème. Et à un moment donné, je pense que, évidemment, le Seigneur m'a aidée. J'ai dit, décris-moi ce que tu ressens dans ton corps. Je vais vous décrire et vous me dites ce qui se passait. Elle dit, ben, on essaye pendant des heures. Marie me disait, des heures, ça dure des heures. S'il vous plaît, aidez-nous. Il était trop mignon. Je les ai revus quelques années après, ils vont bien. Ils ont deux enfants maintenant. On essaie pendant des heures. Le mari, vraiment très attentionné, tout ça, il s'aimait, pas franchi la ligne rouge, tout va bien. Et puis, il ne se passe trop rien, juste un peu ma température. Je sens que j'ai chaud, je respire vite. Ma tête part en arrière, ma jambe se contracte, les doigts de pied se lèvent. Mon ventre fait des mouvements incontrôlés. Et voilà. Merci, c'est ça un orgasme. Eh oui. Mais les films d'Hollywood, etc., nous décrivent un truc, je sais pas à quoi ils pensent, les gars, qui filment ça. Franchement, c'est extraordinaire, c'est quelque chose que Dieu nous a donné, on connecte avec son mari, ça fait du bien partout, ok. Mais enfin, le ciel ne s'ouvre pas, et les étoiles ne nous tombent pas dessus. Et vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ben oui. Mais cette fille-là, cette femme-là, cette jeune femme-là, elle était en train de passer à côté de sa sexualité parce qu'elle ne savait pas ce que c'était. Jamais personne n'avait expliqué ce que c'était qu'un orgasme. La relation sexuelle, ce n'est pas que l'orgasme, d'ailleurs. Chez les dames, je l'ai fait dans le désordre. J'aurais dû commencer par les préliminaires, mais bon, je vais y revenir aux préliminaires. On ne commence pas par l'orgasme, hein. On commence par les préliminaires. D'ailleurs, chez les femmes, l'orgasme, ce n'est pas systématiquement la même chose. Il y a différents niveaux d'orgasme. Mesdames, je le dis à vos maris. Quand on fait des enseignements avec les hommes, je leur en parle parce que les hommes ont souvent dans la tête une idée de performance. Et s'il n'y a pas eu un orgasme, comme je viens de décrire, que j'appelle mécanique, donc avec tous les signes que je décris qui sont dans les manuels, ils se disent « mince, j'ai loupé, ça n'a pas marché ». Non, mais est-ce que vous, mesdames, enfin, ne me répondez pas, je vais embarrasser personne. Je le sais parce que je parle avec plein de femmes. Nous, les femmes, nous n'avons pas besoin de vivre ça systématiquement à chaque fois. Vous êtes d'accord ? Il y a d'autres niveaux d'orgasme. Quand on se sent connecté, quand on donne du plaisir à son mari, ça va aussi. Parce que, soyons honnêtes, pour qu'un orgasme fonctionne, nous, il faut qu'on fasse plein de travail dans la tête. Hein. Ah oui, c'est vrai ou pas ? On lâche le contrôle, on laisse notre corps aller, on ouvre les yeux pour regarder notre mari. Oui, mesdames, ouvrez vos yeux, ça va vous aider. Quand vous riez, je peux boire. Vous voyez, c'est plein de trucs. Il faut que la vaisselle ait été rangée avant. Il faut que... C'est vrai ou pas ? Il ne faut pas que les enfants entendent de l'autre côté de la porte. Eh oui, c'est du travail. Ils ne se rendent pas compte, les hommes. Un homme peut être en train de réparer sa voiture. Vous passez devant, ça y est. Hein. Il a une érection, il est prêt, hein, lui. Mais nous, c'est un peu plus compliqué. On fonctionne un peu comme des... En anglais, on dit croque-pot. Comment c'est en français ? Mijoteur. Vous savez, ces trucs qui cuisent pendant 10 heures, là. Non, pas la cocotte minute. La cocotte minute, ça va vite. Non. Le mijoteur qui cuit tout doucement, ça, c'est nous, ça. Il faut qu'il ait été gentil dans la journée, que les enfants étaient sages. Je vais vous dire une histoire drôle. J'ai le temps encore ? Allez, je vous dis une histoire drôle. C'est une femme de pasteur qui un jour, n'était pas bien. C'est une histoire vraie, hein, bien sûr. Toutes mes histoires sont des histoires vraies. Des fois, je les mélange pour pas qu'on retrouve qui est qui, mais c'est toutes des histoires vraies. C'était pas une Française, je dis souvent ça aussi. Non, mais là, pour le coup, c'était pas une Française. Elle était pas bien, et elle avait genre un rhume ou un truc comme ça, et son mari l'a vue, extraordinaire. Là, c'était déjà un miracle. Il l'a vue, et il a dit, écoute, ma chérie, va te mettre dans le canapé, je te prépare un thé, je m'occupe des enfants, t'inquiète pas. Waouh. Ah, vous avez entendu ? Vous avez entendu ? Elles ont fait waouh, les dames. Ah, non, mais ça, les maris, ils sont sidérés hein, quand on leur raconte ça. Elles ont, toutes les femmes, vous avez réagi. Et il a fait tout ça. Puis elle était dans son canapé, elle sirotait son thé. Quand il a eu fini de faire la vaisselle avec des gants Mappa, rose, hein, elle est allée sur lui, elle s'est jetée dessus, elle lui a fait l'amour dans la cuisine. Eh oui. Quand il s'en est remis, il a dit « Je peux avoir la recette de ce qui vient de se passer, parce que je veux bien que ça recommence. » Mais qu'est-ce qui s'était passé ? Elle s'était sentie aimée, désirée, chérie, en sécurité. Oui, mais ça, mesdames, vos maris ne peuvent pas le deviner, hein. Donc, il va falloir à un moment donné que vous leur expliquiez. Parce que nous, les femmes, notre désir, eh ben, un jour, ça va marcher, puis le lendemain, il va peut-être mettre les gants roses et tout, puis ça ne va pas marcher. Et puis après, ils vont me dire, et pourquoi ça ne marche pas le deuxième jour? Eh bien, j'en sais rien. C'est comme ça, parce que nous, chez les femmes, c'est différent. Les préliminaires, il faut y travailler. Quand on a une femme qui a vécu des abus, qui a des étapes que je vous ai décrites qui ont été sautées dans sa sexualité, les préliminaires peuvent être difficiles. Parce que dans les préliminaires, il faut accepter son corps. Et quand on a vécu des choses difficiles, accepter son corps, c'est insupportable. Vous voyez ce que je veux dire, mesdames? Moi, je vais vous conseiller de travailler avec Dieu pour que vous réappreniez à regarder votre corps comme lui le voit. Ah oui, quand on... Moi, j'ai eu 11 grossesses et donc j'ai perdu 6 petites filles et 5 garçons. Donc, je peux vous dire, j'ai des coutures de tous les côtés. Voilà, hein, c'est pour ça que je mets des trucs grands. Notre corps s'abîme avec les années, plus ou moins. Et puis, des fois, c'est difficile de se regarder. Pour que votre épanouissement se fasse au niveau de votre sexualité, de votre côté physique, il va falloir réapproprier le corps. Si vous êtes célibataire, ça marche aussi. Hein, parce que le plus vous êtes guéri à l'intérieur de votre corps, le plus, si jamais c'était le plan de Dieu, vous étiez marié un jour, ça serait le plus simple. Mais aussi juste pour votre estime de soi. Hein. On n'a pas à travailler l'image que l'on a de soi que quand on est marié, absolument pas. Ça fait partie de notre identité en tant que femme. Je vous conseille de vous mettre, quand vous êtes seule, devant une glace dans votre salle de bain, vous mettez des lumières douces, des petites bougies qui sentent bon, tout ça, puis vous vous déshabillez, et puis vous vous regardez, et vous regardez en demandant « Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi », et puis vous commencez à décrire ce que Dieu vous dit qu'il trouve beau en vous. Donc vous commencez par les choses que vous trouvez belles en fait, même s'il n'y en a qu'une. Vous commencez par ça, et puis ensuite vous remerciez Dieu pour le reste. Et puis, si vous venez, donc là, je parle si on vient d'un problème, d'une situation avec un passif abusif. Maintenant, si vous venez d'une situation avec un passif puritain et que vous n'avez aucune idée à quoi votre corps ressemble, mesdames, prenez un miroir. Vous êtes prêtes? Faites attention qu'il n'y ait personne autour, évidemment. Hein, mettez la musique douce, des jolies bougies, une jolie ambiance. Prenez un miroir et regardez à quoi votre sexe ressemble. C'est une étape extrêmement difficile. J'ai des femmes qui refusent de le faire, il faut tout un temps de travail. J'ai sur mon iPad un livre que j'utilise en thérapie, qui est extrêmement bien, parce que c'est un très beau livre de photographie de sexe féminin. Beau. Je vais l'ouvrir à cette page-là, et je le mettrai dans un coin que personne d'autre peut voir, on va le cacher un peu dans l'ombre. Si vous voulez aller regarder pour vous aider, allez-y. C'est absolument pas de la pornographie, je vous assure. C'est beau parce que le sexe que Dieu vous a donné, il est beau. Et quand on vient d'un milieu puritain, pour pouvoir racheter son corps, il faut commencer par ça. Regardez comment vous êtes. Parce que pour pouvoir développer un épanouissement au niveau du corps, il va falloir savoir que vous sachiez comment votre corps fonctionne. D'accord ? C'est pas une porte gardée, verrouillée, comme dans le film Les Visiteurs, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils défont la ceinture de chasteté avec plein de verrous. Dieu vous a créé belle, avec un sexe de femme, qui fonctionne, qui est mystérieux, et qui est le plus beau du monde, quoi. Parce que c'est le vôtre, d'accord? Donc, pour que vous puissiez découvrir des préliminaires qui vont vous aider à vous épanouir, il faut déjà que vous sachiez qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Puis ensuite, il faudra développer la confiance avec votre mari. Si vous avez besoin d'aide, il faut aller voir du monde, hein. Il faut comprendre qu'on donne et qu'on reçoit. Il faut développer des temps seuls. Il faut prendre du temps, du repos, etc. Et puis, si tout est bien en place, si les étoiles sont bien alignées, l'excitation dans le corps va venir. Il ne faut surtout pas l'éteindre. C'est-à-dire, ça va. Les lèvres, concrètement, les petites lèvres et les grandes lèvres, vont se lubrifier parce que le cerveau va lancer des messages pour que tout ça se mette en route. Il ne faut pas vous arrêter là. Hein. Il faut. Et non, parce que sinon, ça fait fou. C'est pas très agréable. Il faut utiliser des jeux de mains avec le conjoint, des jeux de paroles, ce qui fonctionne, quoi. Si la vaisselle, c'est votre truc, allez-y. Mais il faut explorer pour qu'en fait, votre corps ait le temps de se préparer. D'accord ? Encore une fois, chez la femme, c'est jamais pareil. Et puis, vous connaissez les quickies, repas maison et repas restaurant. Oh, ben non. Ah, j'attendais un grand oui. Bon, je vous l'explique. Les quickies, c'est quand on n'a pas le temps. Vite, vite, vite. Et des fois, ça convient. Les repas à la maison, c'est quand on a le temps d'installer l'ambiance, de préparer tout ça. Et on prend le temps de donner du plaisir à l'autre, qui va nous donner du plaisir à moi. Et puis, on devient un. On va jusqu'au bout de l'acte sexuel comme ça. Et puis, le restaurant, c'est quand vous avez des enfants bas âge et que vous voulez pouvoir vous exprimer, parce que ça fait partie, au fait, de l'orgasme. Je ne l'ai pas dit, mais les bruits qui montent, ça fait partie du mécanisme de l'orgasme. Donc, voilà. Vous allez à l'hôtel, quoi. Et puis, ce n'est pas parce que les gens adultérins vont à l'hôtel qu'un couple marié ne peut pas aller à l'hôtel. Hein. Il n'y a rien qui le dit dans la Bible. Hein. Vous vous souvenez ? C'est vous qui écrivez votre propre histoire. Il faut d'abord se concentrer sur la femme, parce que c'est elle, en fait, qui va donner le tempo. Je vous ai tout dit à ce niveau-là. Je voudrais parler aussi... Ah oui, la redescente, après l'orgasme, la redescente. Ah, mesdames, je vais vous donner un secret. Notre corps de femme a été construit comme une mitraillette. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez avoir plusieurs orgasmes. Les hommes, c'est un revolver, un coup. Mais nous, plusieurs orgasmes. Bon, dans la descente... Donc il y a les préliminaires, excitation, orgasme, et puis l'après l'orgasme, la phase de redescente. Si votre mari a l'habitude de se retourner, de ronfler, bon, des fois, c'est pour vous laisser tranquille. C'est aussi parce que dans son corps, il y a 500 fois l'oxytocine qui est rejetée. Donc, l'oxytocine, c'est ce qui fait dormir, etc. Donc, il ronfle. Mais si vous en discutez avant, puis que vous avez envie d'essayer ma théorie, eh bien, attendez un tout petit peu, restez serrés dans les bras de l'un de l'autre, etc. Et puis, vous allez voir, la machine va redémarrer. C'est physique. Il faut que je vous parle aussi des femmes fontaines. Vous savez ce que c'est, une femme fontaine ? Ah, bien, bien. L'éjaculation féminine, ça existe. Eh oui. C'est pas du pipi, c'est pas du sperme, c'est un liquide qui est de consistance similaire au sperme. Ça peut être évacué du corps en jet. Et ça représente une quantité à peu près comme la paume de la main. Donc, si vous êtes parmi les chanceuses qui en font partie, il faut prévoir un drap. Si vous, dans votre tête, vous autorisez une petite serviette, quoi, si vous autorisez à aller jusque-là. Il n'y a rien de mal à ça. Notre Dieu a créé notre corps pour qu'il fonctionne comme ça. C'est Dieu qui a créé ça. Il y a beaucoup de femmes qui paniquent quand elles n'en ont jamais entendu parler en se disant « Oh, j'ai fait pipi au lit ». Non, non, madame. Ce n'est pas du pipi au lit. Parlons un tout petit peu, après je vais vous passer la main pour les questions, un tout petit peu de la préménopause et de la ménopause. Ah voilà, c'est une zone difficile parce que les hormones chutent, donc on a une baisse de libido. Et la grossesse, pendant une grossesse, on peut vivre aussi les mêmes symptômes. Pareil, parce que le corps dit, bon c'est bon, mission accomplie, je suis enceinte, ou alors la zone de fertilité est terminée, on arrête. Et il y a une baisse de lubrification du vagin et une baisse de désir qui est liée simplement à la baisse des hormones. Vous vous souvenez quand j'ai expliqué qu'au 14e jour, le corps disait « Eh oh, on est prêt !» Ben, c'est pareil. Quand le corps dit plus « Eh oh, on est prêt !», il y a une baisse de libido. Mesdames, il va falloir que vous preniez la décision de continuer, si vous êtes mariée, votre vie sexuelle, parce que ça va redémarrer. Il existe plein de méthodes de lubrifiants. Allez voir votre médecin, allez voir votre gynécologue pour qu'elle vous aide à ce niveau-là. Il ne faut pas que ce soit douloureux. Hein. Donc, il faut vous faire aider à ce niveau-là. Mais souvenez-vous, l'acte sexuel, ce n'est absolument pas que physique. Vous êtes connecté à votre conjoint émotionnellement, spirituellement. Ce n'est pas que sexuel, pardon. L'acte sexuel n'est pas que sexuel. Il est physique. Il est émotionnel et spirituel aussi, en plus. Donc, ne laissez pas ça tomber. Quand on prend de l'âge, eh bien, c'est une bonne idée de programmer au moins une fois par semaine. Vous sortez au restaurant, vous passez une soirée télé si vous avez envie. Et puis, par exemple, vous vous dites, on ne veut pas perdre l'habitude d'être un, de connecter, d'appartenir l'un à l'autre. Eh bien, faisons l'amour tous les mercredis soirs. Et dans la période de ménopause et de préménopause, ça va vous aider. Et puis, ça existe chez le mari aussi. Des fois, il y a une baisse de désir chez le mari. Donc, entretenez-le, je vous en prie. Entretenez-le, ça va vous garder connecté l'un à l'autre et ça va vous garder protégé aussi spirituellement, vous savez, que de faire un avec son mari quand on est marié, c'est une zone de protection au niveau spirituel. Vous regardez dans Éphésiens 4, vous comprendrez. Et ma grande phrase, au fait, quand la ménopause est installée, des fois l'appétit sexuel revient chez la femme. Hein. Des fois j'ai des dames un peu âgées, je dis plus d'âge maintenant que j'avance. Mais mes fils, 35 ans, c'est vieux. Maintenant, je dis plus d'âge, parce que j'avance. Mais les dames un peu plus âgées que moi, des fois, elles me disent « c'est normal, moi j'ai tout le temps envie de mon mari maintenant ». Ben oui, c'est normal, parce qu'en fait, une fois que la ménopause est passée, il n'y a plus de risque de tomber enceinte. Donc au niveau psychologique, il y a des femmes qui se lâchent, et qu'il n'y a plus d'enfants à la maison, et puis elles se sont enfin acceptées comme elles étaient, donc c'est le bonheur, et ben tant mieux, profitez-en, tout va bien. Elles me disent « est-ce que c'est normal ?» Oui, allez-y, c'est parfaitement normal. Et ma grande phrase, à chaque fois que je passe sur la sexualité, je vais vous le dire. L'appétit vient en mangeant. Vous m'avez déjà entendu dire ça ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Mesdames, ne dites pas non à votre mari. Quand on est célibataire, on canalise. Mesdemoiselles, ne tuez pas le pouvoir de sexualité que Dieu vous a donné. Canalisez-le, réservez-le, gérez ça avec Dieu, trouvez des moyens de l'exprimer en dehors du côté sexuel. Vous avez émotionnel, spirituel et physique pour y arriver, d'accord ? Mesdames, quand vous êtes mariées, ne dites pas non à votre mari. Des fois, vous n'aurez pas envie, mais l'appétit vient en mangeant. Vous allez m'entendre hein, quand il va dire « Chérie, dites pas, ah, j'ai mal à la tête. » Écoutez ma voix et dites « L'appétit vient en mangeant. » Des fois, et dites-moi si c'est pas vrai, des fois, il suffit d'y aller, de démarrer le truc et puis ça se met en route. C'est pas vrai ? J'ai quelques dames qui me disent oui. Ok, je vous assure que c'est vrai. L'appétit vient en mangeant parce que l'acte sexuel n'est pas que sexuel. C'est pas une question de mon plaisir, de comment je vis. On parle pas de s'il y a une maladie, si vous n'allez pas bien, évidemment. Hein. Mais on parle de oh, j'ai pas très envie. Ce qui est malheureusement souvent, les hommes ont des poussées de testostérone toutes les 15 minutes, donc évidemment. Et nous, c'est une fois par mois. J'exagère. Avant de conclure, je vais vous donner la parole pour des questions. Je voudrais bien, si vous voulez bien me mettre la lumière dans la salle, la parole pour des questions. Et puis ensuite, on reviendra à la conclusion. Est-ce que vous avez des questions après tout ce que je vous ai partagé ? Levez la main, une ici, s'il vous plaît. Merci. Attends, le micro vient. Attendez, le micro vient.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'orgasme clitoridien et orgasme vaginal ?
Merci. Orgasme clitoridien et vaginal. Clitorien et vaginal. Ah ben voilà, vous savez comment on est fait, on a le clitoris. Merci, j'ai oublié de parler du clitoris. Oh. Vous savez que le clitoris, c'est le seul organe que Dieu a créé dont l'unique but soit le plaisir. Les hommes n'en ont pas. Rien, pas de clitoris, juste nous. Il y a des femmes qui ont besoin que le clitoris soit stimulé pour que l'organe se mette en place. Il y a des... Oh, je vais vous mettre deux mains, comment je vais faire ? Bon, mince, je vais vous faire comme ça. Il y a des femmes qui ont besoin que le vagin soit stimulé, je vais faire avec mes doigts, que le vagin soit stimulé pour avoir un orgasme, parce que le point G existe. Oui. Vous voyez comment c'est... Alors, c'est une vue de profil. Je vous le fais comme ça. C'est l'intérieur, donc vous avez l'entrée là, vue de profil, d'accord ? Le point G, ça va, je choque personne ? Il est à peu près là, alors je vais vous montrer, puis après je reprends le micro. Si vous prenez un miroir et que vous regardez comment vous êtes faite, puis ensuite vous rentrez votre doigt à l'intérieur, vous n'êtes pas en danger de péché à cause de la masturbation, vous m'avez entendu, hein ? C'est si on rajoute des choses et qu'on part dans le orange et dans le rouge, ok ? Nous faisons de l'exploration de votre corps. Vous regardez à l'intérieur là, il va y avoir comme une petite courbe comme ça là, et puis vous allez voir ça faire, et ben c'est ça le point G. Voilà. Le clitoris, il est très mystérieux aussi. Alors si vous le découvrez, pareil, hein, moi je vous encourage à regarder, hein, sérieusement. Si vous le découvrez, vous allez voir comme un petit bouton. D'ailleurs, c'est de là que sort le pénis dans le ventre de la maman quand un petit garçon est construit. Les garçons ne sont que des filles dégénérées. Non, je rigole. Au niveau de l'anatomie, hein, c'est le clitoris qui a grandi. Je dis ça à mes fils, ils disent « Maman, arrête !» S'ils étaient là, ils me diraient « Maman !» Non, c'est pas vrai ce que je viens de dire. Ne l'écrivez pas dans les annales. Ne dites pas « Rachel Dufour a dit que... » S'il vous plaît. Je ne pense pas ça du tout. J'ai élevé mes 5 fils. Donc, le clitoris, il est hypersensible. Donc, s'il est trop stimulé, genre avec les doigts trop forts ou avec la langue du mari trop pointue, ça fait mal. Et les maris ne le savent pas, il faut leur expliquer, d'accord ? Donc, pourquoi il y a une différence entre les deux ? Parce que Dieu nous a créés toutes uniques et ça dépend comment vous êtes faites. Et il faut que vous sachiez comment vous fonctionnez, pourquoi, pour pouvoir l'expliquer à votre mari. Donc, faites des tests. Quand vous êtes en pleine action avec votre mari, essayez de réfléchir à quelle zone, en fait, est le plus agréable. Oui, je prends des mots doux, des fois. Est plus agréable, vous donne le plus de plaisir, puis vous le lui expliquez, parce que vous fonctionnez comme ça. Il arrive quelques cas où la femme soit les deux. Ce qui veut dire que ça fonctionne dans les deux, aux deux endroits. Puis il y a des femmes que c'est que le clitoris, et des femmes c'est que le point G à l'intérieur du vagin, ce qu'on appelle vaginal. Voilà. Une autre question ? Oui, oui, allez-y.
En tant que chrétien, est-ce que c'est pornographie, c'est autorisé ou ça peut être péché, je ne sais pas.
Pornographie, merci. C'est que j'ai mal fait mon travail, vous auriez dû savoir déjà. La pornographie, elle introduit quelqu'un d'autre dans notre couple. Ah, on n'est plus dans nos trois règles d'or là. L'acte sexuel est entre le mari et la femme. Si on regarde quelqu'un d'autre en train d'avoir du sexe, notez bien la différence. Je ne dis pas faire l'amour, hein. Je dis avoir du sexe. On regarde l'intimité de quelqu'un d'autre. La pornographie ne va vous attirer que des ennuis. Non, 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 non. Okay. Maintenant, des fois, il y a des couples qui nous disent « Ouais, mais on s'ennuie un peu, donc on a regardé des trucs pour avoir des idées. » Ok, c'est valide. Dieu a créé la sexualité. Vous ne croyez pas qu'il en est l'auteur et qu'il est capable de vous aider à découvrir des choses nouvelles ? Voilà, merci. Exactement. Je vais vous dire un secret. Alors, vous avez remarqué que je parle je parle pas de ma vie à moi avec mon mari. Hein. On traite plein de sujets. Dans les autres sujets, on vous raconte plein de trucs sur nous. Pas dans celui-là. Dans mon livre, il n'y aura aucun exemple sur nous, sauf ça, que mon mari et moi, on est d'accord de partager. Ça fait 25 ans qu'on est mariés. Nous découvrons encore des choses aujourd'hui. Et voilà. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, d'ailleurs. Parce que c'est pas dans les livres, mais moi, je sais que ça existe. Donc, je vais vous le dire dans mon livre, quand il sera prêt. Avec Dieu. Pourquoi ? Parce que faire la corde à trois fils dont on a parlé au démarrage, elle est réelle. Faire l'amour, c'est avec votre conjoint et Dieu. Il ne dit pas « Popo, attendez que je sorte, là !» avant de démarrer. Il est en vous, il est en moi, il est dans mon mari, il est là en même temps que vous. Donc, si vous avez besoin d'idées nouvelles, la pornographie, c'est le choix du diable. Demandez à Dieu de vous donner des idées, il va y répondre. D'accord ? Mais non, excusez-moi, je vais rajouter ça, c'est hyper important. Si la première empreinte sexuelle, c'est-à-dire la première stimulation sexuelle, s'est faite malheureusement en regardant un film pornographique, il y a une empreinte qui se met dans notre cerveau, ça fait vraiment comme une empreinte, on peut le voir à l'IRM, et ça crée un chemin par défaut qui va faire que quand on est super heureux ou super triste, eh bien notre cerveau va prendre le chemin par défaut pour trouver du réconfort. Malheureusement, la pornographie, dans certains cas, dans beaucoup de cas. Il y a moyen de guérir ça. Hein. Si la pornographie est chemin par défaut, il y a plein de moyens, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais trouver quelqu'un qui va vous aider. Il y a des moyens de recréer l'empreinte au bon endroit, d'annuler les effets de l'empreinte et de la recréer au bon endroit. Donc la pornographie, ce n'est pas toujours simple à expliquer. Est-ce que c'est un bon outil pour la sexualité dans le couple, pour les chrétiens, pour la sexualité en général ? Non. Est-ce que c'est simple de ne pas y aller ? Non aussi, pour la raison que je viens d'expliquer. Et on peut prendre encore une question. Alors, oui, il y a des questions derrière ou pas ? Ben non, là. Excusez-moi, je ne vois pas vraiment du tout, je ne vois pas bien. Je vois une main qui se lève devant.
Est-ce que vous pouvez aborder le sujet de la sodomie ?
Merci, voilà, ce sont des questions classiques. Sodomie. Alors, vous vous souvenez des trois règles ? Est-ce que ça se passe entre mari et femme ? Est-ce qu'il y a consentement mutuel ? Est-ce que ça fait mal ? Je n'ai pas le droit de vous dire si c'est bien ou mal. Maintenant, pourquoi ? Parce que ça se décide entre le mari et la femme. Maintenant, pour la sodomie, il y a des mesures prophylactiques qu'il faut que je vous explique. Alors, je vais vous apporter les questions. Je vous fais raccourci parce qu'on n'a pas le temps, mais on va me dire, oui, dans la Bible, c'est condamné la sodomie. Montrez-moi le verset où ça l'est condamné. Ça l'est nulle part. Il n'y a pas de verset qui condamne la sodomie. Sodome et Gomorre, le péché le plus grand de Sodome et Gomorre, c'était quoi ? Non, pas la prostitution. Pas l'homosexualité, l'orgueil. Le péché le plus grand de Sodome et Gomorre, c'était l'orgueil. Pas la perversion au niveau de la sexualité. On a donné le nom à sodomie en fonction de ça, parce qu'on a pensé que ça venait de là, mais non. Le péché donnant, c'est pas une question de masturbation ni de tout ça, c'est une question de retrait précoce avant l'éjaculation. Je vous fais les réponses classiques aux questions qu'on me pose à ce niveau-là pour développer les côtés prophylactiques. Donc ce qui était condamné avec Onan, c'était qu'il a refusé de donner une descendance à sa belle-sœur, en fait. C'est ça, c'est pas l'acte en lui-même, d'accord ? Ok. Revenons à la sodomie. Vous, le couple, choisit dans son cadre ce qu'il en pense et ce qu'il veut faire. Maintenant, il faut savoir que cette orifice-là, un sphincter qui va dans un sens seulement, comme ça. Donc, une répétition d'introduction d'un objet dans ce sens-là va aller à l'inverse du sphincter, donc ce n'est pas très bon. Si la sodomie est pratiquée, comme je l'ai entendu plein de fois, comme un moyen de contraception, pas bonne idée, d'accord ? Parce qu'il va y avoir des incontinences après, en vieillissant, d'accord ? Pas une bonne idée. Il y a d'autres moyens de contraception si c'est un choix que vous voulez faire. Pas bon, pas bonne idée. Ce canal-là est très énervé, c'est pour ça qu'il est souvent... il y a un désir d'explorer. C'est très énervé, donc c'est une zone hétérogène aussi. Mais il y a aussi plein de bébêtes, quoi, plein de microbes. Donc, prophylactiquement parlant, il faut impérativement, si un couple dans le cadre qui est le leur choisissait de l'explorer, protéger. Pourquoi ? Parce que sinon, je vais vous parler clairement, le mari va ramener des matières fécales que l'on ne verra pas, même si la femme est très propre, et va contaminer la zone. Et lui, donc risque d'infection. Prophylactiquement parlant, il faut faire hyper attention. Mais l'Église, virgule, je, virgule, n'avons pas le droit de vous dire « c'est pas bien ». D'accord ? C'est pas considéré contre nature. Le passage que vous citez est le seul verset dans la Bible qui fait référence à l'homosexualité féminine. Si on attribue ce verset-là à la sodomie, alors il n'y a aucun endroit où la Bible parle de l'homosexualité féminine. L'usage de la femme contre nature, ici, évidemment, on pourra en débattre théologiquement parlant, nous faisons partie de la frange qui pense que c'est lié à l'homosexualité féminine. Pourquoi ? Parce que le verset du dessus, c'est l'homosexualité masculine qui parle ensuite, qui passe ensuite à l'homosexualité féminine. C'est une approche théologique, d'accord ? Donc, je ne vais pas le débattre. En tout cas, si on revient au cadre des règles d'or, qui sont assez simples, quand je vous ai expliqué, tout le monde était d'accord. Est-ce que ça se passe entre le mari et la femme ? Est-ce que les deux sont d'accord ? Et est-ce que les deux sont d'accord ? Est-ce que ça fait mal ? Si c'est contre ce que Dieu veut pour votre couple, le Saint-Esprit vous le dira. Donc, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. Mais le danger, c'est quand quelqu'un d'extérieur au couple dit bien ou pas bien. C'est contre ça que je me bats, d'accord ? Est-ce que je l'encourage ? Ben, je viens vous démontrer que ce n'est pas forcément simple. Est-ce que je le condamne ? Certainement pas. Une autre question ? Il nous reste quelques minutes encore. Alors, je n'ai pas vu. Au fond, peut-être.
Est-ce que tu peux relever la main ?
Ça va, vous tenez le coup ? Ouais. Le micro passe et est arrivé.
Bonjour.
Bonjour.
Vous disiez tout à l'heure au sujet des fiancés, quand on commence à se connaître ou à son futur conjoint, qu'il faut, faut pas interdire de s'embrasser, etc.
Oui. Si ce n'est pas dans la ligne rouge, hein, on est d'accord.
D'accord. Mais vous êtes bien d'accord avec moi que quand c'est bon là-haut, ça chauffe en bas aussi.
Très bonne remarque. Merci. Exactement. Très bonne remarque. Je vais répéter la question. Vous pouvez répéter la question ? Je vais la répéter. Chut, il nous reste quelques minutes. Merci, c'est une très bonne question. Tu peux me dire ton prénom ?
Elisabeth.
Elisabeth a dit, vous avez dit qu'avant le mariage, on pouvait s'embrasser sur la bouche, mais vous êtes d'accord que si, quand c'est bon en haut, ça chauffe en bas. Ben oui, c'est pour ça que c'est le bouton de démarrage. C'est pour ça que quand on est fiancé, il faut bien définir c'est quoi la ligne rouge. Et puis, vous ne vous retrouvez pas dans votre chambre le soir à prier ensemble. Parce que, évidemment, quand on est arrivé à s'embrasser sur la bouche, ça va chauffer.
Bah oui.
Ça va chauffer. C'est normal, Dieu a créé ça comme ça. Ne l'éteignez pas, mais assurez-vous que vous allez être dans un endroit où vous ne pouvez pas basculer, quoi, hein, à l'horizontale, d'accord ? Absolument. Donc, si vous risquez de brûler, ne le faites pas. Mais encore une fois, moi je suis férocement contre les enseignements qui disent « c'est dégoûtant », vous voyez la nuance, hein ?« c'est dégoûtant, ne le faites pas avant le mariage ». Comme ça, ça a l'air spirituel. Oui, mais avant on a dit « c'est dégoûtant, ne le faites pas », vous comprenez ? Après, je les récupère, les femmes mariées qui n'arrivent pas à atteindre l'orgasme. Il faut 2 ans pour guérir de ça, 2 ans. Donc on peut choisir... On peut choisir de, on s'embrasse pas avant le mariage parce que c'est ma ligne rouge et qu'on l'explique ensemble et qu'on la garde et qu'on veut pas risquer de tomber. Oui, 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 absolument. On peut choisir de s'embrasser avant le mariage pour que nos corps s'habituent et on fait hyper attention, le lieu dans lequel on est, etc. Et On respire, on prend une douche froide, on s'en va, tout ça. Hein. Voilà. Moi, j'ai, on a travaillé avec...
Amenait ma question, justement.
Oui, alors il nous reste 2 minutes, après
je conclue. Voilà, c'est ma question. Ceci pour dire que voilà, quand ça chauffe, bah, c'est compliqué. Et j'espère ne choquer personne. Vas-y. Par ma question. Que pensez-vous, en fait, des relations sexuelles, si on sait que le conjoint ou la conjointe, c'est celle qu'on va épouser ou... avant le mariage.
J'ai pas bien travaillé.
Non.
Merci.
Mais c'est une question que je...
Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Bah, nous, on a couché avant, notez bien la différence de mots. On a couché avant parce qu'on savait qu'on allait se marier, donc c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Parce que ça franchit la loi naturelle. Et la ligne rouge est brisée et les conséquences vont se mettre en place dans le couple. La relation sexuelle est réservée pour le mariage parce qu'il y a la sécurité de l'alliance, en fait. Parce que c'est l'endroit que Dieu a déterminé. Plus on attend, meilleur ça sera. Donc, je vous encourage à ne pas franchir cette ligne rouge avant. Gardez-vous. Ça n'en sera que meilleur après. Ce n'est pas une punition, c'est le plan de Dieu. Il l'a choisi pour mettre une sécurité, en fait, autour de cet acte qui est extrêmement spirituel. Même si vous allez vous marier après, si vous franchissez la ligne rouge avant, je vais vous dire, moi, si on a en face de nous un couple... Avant qu'ils parlent, je peux vous dire s'ils ont franchi la ligne rouge avant ou pas. Parce que ça se voit sur eux. C'est tellement vrai, c'est tellement réel. Bon, j'ai beaucoup l'habitude, mais c'est vrai. Ça se voit sur eux. Donc, je vous encourage à bien déterminer, à bien garder ça, à bien protéger. Vous voyez que je suis pour la sexualité, moi. Je suis pour que les femmes prennent possession de qui elles sont complètement, qu'elles apprennent à aimer leur corps de femme, qu'elles apprennent à le comprendre, qu'elles apprennent à gérer leur sexualité avant, quand elles ne sont pas mariées, en tant que célibataire, qu'on aide les petites filles à la découvrir, etc. Qu'une femme mariée apprenne à être épanouie pleinement. Le plus elle sera épanouie sexuellement, le plus son mari sera heureux, le mieux elle ira. C'est bon pour tout le monde. Je suis à fond pour, mais dans le cadre que Dieu a établi. Il l'a fait pour notre bien. Et je vous assure que quand on respecte les lois de Dieu, ça marche. Si je choisis de sauter du haut du bâtiment en disant « moi, la gravité, je m'en fiche », je vais me casser la jambe, quoi. Même si j'y crois pas. Merci pour cette question, j'avais sans doute pas bien expliqué, c'est très bien d'y revenir, merci. On est à la fin de notre temps alloué, donc je vais conclure, et puis autorisez-moi à prier pour vous après, mais vraiment, Dieu a créé la femme comme un être sexuel. Il a créé la sexualité, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a donné. C'est son idée, la sexualité. C'est son idée pour qu'on ait un aperçu de l'éternité avec lui. Vous vous rendez compte comme c'est sérieux ? C'est son idée pour que l'on ait un aperçu de l'éternité avec lui, après. Donc il faut le protéger, il n'y a rien de sale, il n'y a rien de répugnant. Tout ce que Dieu a créé et qu'il a établi dans un cadre est bon. Faisons attention au puritanisme, faisons attention aux déviances transmises par la pornographie. Tout ça, ce sont deux extrêmes que le diable utilise, et il est fort. Hein. Là, moi, j'arrive des États-Unis, je ne sais pas, il y a 2 jours, je crois. Moi, je suis choquée en France, je suis assise dans la voiture, devant moi, il y a... une paire de lolos avec un soutien-gorge transparent, c'est dur hein, d'être en France et de garder son esprit pur pour les hommes, par exemple, etc. Ce sont des plans que le diable avait mis en place pour nous voler un cadeau précieux que Dieu nous a donné. Donc, je vous encourage à y réfléchir, à prier, à vous faire aider si vous avez besoin. Il faut qu'on se réapproprie notre sexualité parce que Dieu nous l'a donnée. Célibataire ou mariée ? Elle nous appartient parce que Dieu nous l'a donnée et elle est belle. Il n'y a pas de situation... irrécupérable. Il n'y a pas de situation irrécupérable. Un jour, je travaillais avec une jeune fille, ce n'est pas une Française, c'est vrai, ce n'est pas une Française. C'est une ex-prostituée et drug addict, toxicomane, à un niveau que je n'avais jamais rencontré de ma vie. On a travaillé pendant 5 ans avec des toxicomanes au début de notre ministère. Je n'avais jamais vu quelqu'un qui a eu la vie qu'elle a eue. Elle a eu plusieurs de ses amants qui sont morts dans ses bras d'overdose, terrible. Donc vraiment, au niveau de la féminité, de la sexualité, elle n'avait même plus son cerveau quoi, qui lui appartenait. Elle était au bas de ce que l'on peut trouver, des plans du diable, en fait, du projet du diable par rapport à la sexualité. Elle a rencontré Dieu, elle s'est convertie, Dieu l'a guérie, restaurée, rétablie. Avec elle, mon travail était de l'aider à redéfinir sa ligne rouge. Parce qu'elle m'a dit, tu sais, moi, j'ai tout fait, quoi. J'ai tout fait, tu ne peux même pas imaginer. J'ai tout fait. Et pourtant, je veux redécouvrir ma sexualité comme Dieu l'a voulu. Pour elle, la ligne rouge, ça ressemblait à... On ne se touche pas du tout avant le mariage, aucun contact physique, à cause de son histoire. Mais elle va se marier et elle va se réapproprier le cadeau que Dieu lui avait donné. Il n'y a pas de situation irrécupérable, il n'y a pas de situation trop grave, votre problème n'est pas, comme l'a dit Mona ce matin, n'est pas trop grand pour Dieu. Notre Dieu peut vous guérir au plus profond de vous, pour que vous puissiez rentrer dans la destinée qu'il vous avait donnée en tant que femme. Seigneur, tu vois ces femmes ici dans cette salle, tu connais leur histoire à chacune. Merci Seigneur pour ta parole, je prie qu'elle pénètre au plus profond de leur cœur, au plus profond de leur âme, au plus profond de leur corps. Seigneur, je te demande de venir les guérir à l'intérieur. Que chacune d'elles puisse vraiment prendre possession de sa féminité en toi, qu'elle puisse ressortir transformée de ce week-end, Seigneur, que toutes les interventions qui vont arriver les unes après les autres puissent faire un travail en profondeur, mais au niveau de leur sexualité, Seigneur, que l'image de cette sexualité belle devant toi soit ancrée au plus profond de chaque cœur des femmes présentes dans cette salle. Merci de les bénir, merci de faire pousser cette graine que j'ai déposée. Merci d'avoir préparé leur cœur et que, Seigneur, cela porte des fruits pour cette génération et pour la suivante aussi, Seigneur, pour leurs filles. Merci, Seigneur. Amen.